Bonjour, bienvenue à Escal 17-18 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Vatman à la technique. C'est bien jeudi, donc on va avoir les oreilles bien pleines de ces deux nouvelles sportives avec Myriam Larache qui va nous parler du début des Jeux paralympiques Pékin 2022 et puis et tout ce que cette guerre en Ukraine voilà, en train de provoquer ou bien de chambouler dans le monde du sport. On va voir ce qu'elle va nous raconter. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Steve Couture, qui est producteur et président directeur général d'Epic Story World et président de Lumi Animation. Ouais, et il va nous présenter une série d'animation jeunesse qui a pour titre Dex et les Humanimaux. Ça a commencé depuis le 1er mars. Ici, tout TV, c'est gratuit. Allez-y, profiter rapidement avant que ça devienne payant. À un moment donné, vous ne pouvez pas regarder si vous n'êtes pas abonné à Ici, tout TV. C'est comme ça. J'ai vu un épisode, j'ai pas vu toute la série de 6 épisodes, là, ça a commencé. Ouais, j'ai vu, je me suis dit, tiens, il faut que je regarde au moins un épisode avant de pouvoir le recevoir aujourd'hui. C'est bien drôle, c'est rigolo, c'est intéressant, c'est tout frais. On ne peut que les encourager. Alors, on part tout de suite en musique avec Salatiel, toi et moi.
Alphabetal Records. Mon bébé pour moi, ma chérie, ma chérie pour moi, baby I'm not afraid, to give you my heart, and I know go fail you, I'll always love. Together we're stronger, toi et moi, together forever, toi et moi, we go going through the storms of life, toi et moi, vas-y, prends ma main, on avance, bébé, toi et moi. I look into your eyes, you look into my eyes, girl I can read your mind, cause your feelings know the lie, your beauty one of a kind, you got me hypnotized, is it the way you smile, my angel? Si c'est le tout passé que tu me donnes, baby ça marche, et si c'est la tête mâchoire dans ton bongo, baby ça travaille, oh. Cause I'm in love with you. Mon bébé pour moi. Ma chérie, ma chérie pour moi. Baby, I'm not afraid, to give you my heart, and I know go fail you, I'll always love you, cause together we're stronger, toi et moi, together forever, toi et moi, we go going through the storms of life, toi et moi. Vas-y, prends ma main, on avance, bébé, toi et moi. All the girls and the waste that time, then the boy in the bins, me and you for life, then go wash hand for we, because everybody knows, even God in heaven knows, say now you the in control of my love. Si c'est le tout passé que tu me donnes, bébé, ça marche. Et si c'est la tête mâchoire en dans ton bongo, bébé, ça travaille. Ooh, cause I'm in love with you. Yeah, 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 mon bébé, mon bébé pour moi. Ma chérie, yeah, 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 ma
Ça, là, c'est toi et moi. Alors, comme tous les jeudis, Myriam est déjà au bout du fil. Bonjour, Myriam Larache.
Bon après-midi, Fulgence. Je ne sais jamais dire s'il faut dire bon après-midi ou bonsoir.
Moi, je dis bonjour. Moi, je dis bonjour tout le temps.
Parce que, en Amérique du Nord, comme ça, et surtout au Canada, à 5 heures, c'est déjà bonsoir.
Ah, voilà. Bon, ben, je dis bonjour tout le monde. Et puis, bon, ben, bonsoir, bonjour. Moi, ça y va.
T'as pas vu que j'hésite à chaque fois. Je suis là. Bon après-midi, bonsoir.
Je me laisse aller. Ben, je dis bonsoir, bonjour. Ça dépend, je mélange quoi. Allez, allez, vas-y.
Alors, aujourd'hui, Fulgence, ben d'abord, oui, il y a une dernière heure qui est tombée, mais je la dirai au fur et à mesure.
Oui.
On va parler évidemment des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin qui commencent demain. Alors, c'est du 4 au 13 mars en Chine.
Oui.
Et la cérémonie d'ouverture, pour, comme l'autre fois, pour ceux qui veulent se lever tôt, ça sera à 6h30 du matin.
Non, je fais la grasse matinée. Là. Je suis pas encore réveillé.
Alors, les athlètes Greg Westlake du para-hockey et Ina Forrest du curling en fauteuil roulant seront nos porte-drapeaux du Canada.
Oui.
La délégation canadienne est représentée, figure-toi, par 49 athlètes qui se retrouveront dans les 5 sports suivants. Je vais vous le dire, si vous voulez aller suivre ces sports-là, c'est là que vous verrez vos Canadiens. Le para-hockey sur glace, on a 17 athlètes. Le paraski nordique qui contient le biathlon et le ski de fond, 12 athlètes. Le paraski alpin, 11. Le curling en fauteuil roulant, 5. Et le parasurf des neiges, 4. Alors voilà, on n'en a pas beaucoup. Hein. Alors la province d'Ontario, elle regroupe comme d'habitude le plus avec 21 athlètes.
Ah bon,
suivi,
okay.
Oui, comme toujours, hein. Je ne sais pas si c'est mais c'est toujours l'Ontario qui en a le plus.
Oui.
Alors, ex aequo le Québec et la Colombie-Britannique avec 8 athlètes donc du Québec. Et donc tout ça, en gros, avec un peu 2-3 de chaque autre province, ce qui fait 49.
Ouais.
Alors, on notera que Logan Leach, le paraskieur, est le plus jeune membre de l'équipe avec ses 19 bougies. Et le plus âgé, oui, c'est le plus jeune. Et le plus âgé, c'est le joueur de curling en fauteuil roulant, Dennis Thiessen, qui lui, tiens-toi bien, a 60 ans déjà. Alors, lui, il va faire du curling.
Ok.
Une grande différence d'âge.
J'espère, ouais, c'est vrai. J'espère, j'ai pris les deux extrêmes.
Toujours. Ouais. Comme aux Jeux Olympiques d'été et aux Jeux d'hiver, je vous donne le plus jeune.
Oui.
Et, tu te rappelles l'été, la plus jeune avait 14 ans et le plus vieux aussi en avait 65, je pense,
65.
En équitation.
C'est
hein,
ça.
En natation, c'est la jeune.
Ouais.
En équitation, c'était... Il y a des sports qui permettent d'aller au-delà de... Au-delà de ses 50 ans, on va dire.
Voilà. Moi, parce qu'il y a des sports qui n'ont pas besoin vraiment de voilà. courir, ou bien je ne sais quoi. Et j'espère qu'ils vont nous revenir avec une, comment dirais-je,
toute
une. Ouais, avec de bonnes médailles, une corbeille pleine de médailles.
D'ailleurs, on va surveiller pour cela de près Brian McKeever, le parafondeur. Et tu en sais, fait, à ses sixième jeu. Hein.
Ouais, Myriam, avant de te laisser continuer, j'ai eu peur que. Les instances des Jeux paralympiques annulent tout hein, à cause de cette guerre.
Ah oui, je vais en parler, c'est pour ça que je te dis, il y a une dernière, un revirement de situation, je vais en parler dans 2 secondes, justement. Mm-hmm. Alors, on surveillera quand même de près pour nos médailles, Brian McKeever, parafondeur, qui en est à ses 6e Jeux, c'est incroyable, et qui a déjà récolté 17 médailles, dont 13 en or.
Oui.
Il est le paralympien le plus décoré du Canada. Donc, suivez Brian McKeever, c'est sûr qu'il va nous en ramener une autre, là. Ça, c'est certain.
Ah oui.
Alors, maintenant, l'impact de la guerre en Ukraine, malheureusement, Fulgence, ça ne s'arrange pas. Hein. Tu parlais, il y a quelques émissions, je t'ai écouté. Tu disais, on espère que ça ne va pas s'aggraver. On l'a même dit jeudi dernier, parce que jeudi dernier, c'était la veille, ce que ça avait commencé. C'était les balbutiements. On ne pensait pas que ça irait si loin.
Oui, l'attaque s'est produite la nuit du jeudi à vendredi.
Mmh. Oui, si loin et si vite. Alors, figure-toi que les Jeux d'abord paralympiques d'hiver de Pékin, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont failli ne pas avoir lieu. Pourquoi ? Parce que le Comité international paralympique a annoncé hier que les athlètes de la Russie et la Biélorussie seront autorisés à prendre part aux Jeux de Pékin, mais qu'ils devront compétitionner sous bannière neutre en raison donc de la guerre en Ukraine.
Ah, il y a des gens qui sont grimpés au balcon, là, qui sont grimpés ils sont grimpés au mur. Ils ont dit non, ça marche pas comme ça.
Exactement. Alors les deux pays disaient que seront exclus des tableaux des médailles, ils n'auront pas un cumul de médailles. La CPI a ajouté qu'il n'autorisera pas la tenue d'aucun événement sportif dans leur pays concernant le Comité olympique. Et ils ont même ajouté qu'ils retirent la médaille d'honneur paralympique remise au président russe Vladimir Poutine. Il lui avait donné ça il y a quelques années. Alors, le Canada a dénoncé tout de suite cette décision. Il a été parmi les premiers. Hein. La ministre canadienne des Sports, Pascale Saint-Onge, a exhorté de renverser immédiatement cette décision. Les Allemands, quant à eux, étaient furieux. Les principaux dirigeants du sport olympique et paralympique allemand se sont montrés choqués par cette décision. Et devine ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont changé. Ils ont dit, les Biélorusses et les Russes sont exclus des Jeux paralympiques.
C'est normal, c'est normal. Si toutes les autres fédérations sportives internationales ont pris la même décision.
Exact. Et donc, ils ont dit, et quelle est la raison? Alors, les journalistes ont posé la question, quelle est la raison? Ben, ils ont dit, ils ont menacé les autres athlètes de ne pas venir ou participer du tout. Ils allaient boycotter les athlètes, ne voulaient pas que les Biélorusses et les Russes soient là.
Oui.
Alors,
oui.
Donc, ils ont décidé de changer ça. Maintenant, l'impact sur le monde du tennis. Je sais qu'on en a parlé aussi la semaine dernière avec Svitolina qui a tout de suite crié « Vive la Hongrie !» Pardon, la Hongrie, « Vive l'Ukraine, gloire à l'Ukraine
oui. !»
Ben, les fédérations ont annoncé dans un commun accord que les Russes et les Biélorusses pourront continuer de prendre part aux tournois des circuits, eh ben, y compris ceux du Grand Chelem, mais sont exclus seulement de la Coupe Davis et de la Coupe Billie Jean King. Pourquoi ? Parce que tu sais que dans ces coupes-là, ces deux, c'est le pays qui est représenté. Hein. Quand on va à la Coupe Davis chez les hommes, c'est le Canada qui est représenté, on joue par équipe. Et à la Coupe Billie Jean King, ce sont les femmes qui sont représentées, donc par équipe. Alors ils ont dit, on va les exclure de là car ils représentent la Russie, mais ils continueront de jouer à tous les autres tournois. Alors l'ATP et la WTA ont par ailleurs annoncé l'annulation du tournoi de Moscou qui était prévu en octobre.
Oui.
Donc, je vais te donner la liste, parce qu'il y en a, hein. Les Russes, Daniil Medvedev, et pas n'importe lesquels, les Russes, dans le tennis quand même. Les Russes, Daniil Medvedev, numéro 1 mondial. André Roublev, 6e. Anastasia Pavlyuchenkova, 14e au monde. Ou encore, ta meilleure, Fulgence, la Biélorusse Arina Zabalenka, 3e au monde. Pourront donc continuer de s'aligner dans les tournois, à commencer par le prochain Masters 1000, un des plus réputés, hein, le Masters 1000 d'Indian Wells dans le désert californien, qui débute d'ailleurs le 10 mars prochain, puis dans ce grand chelem, Roland-Garros et Wimbledon. Donc ils auront le droit de participer à tout ça. Il y a l'US Open qui ne s'est pas encore prononcé, mais pour l'instant, Roland-Garros et Wimbledon les accueillent en tant qu'individus, tu comprends ?
Pas en tant que nation.
Voilà,
oui.
Parce que souvent, ils mettent les drapeaux, mais je pense...
Ils n'ont qu'à cacher le drapeau, là, cette fois-ci. S'ils veulent se faire accepter dans...
Il y a un débat quand même à mettre sur ça, Fulgence, sur cette façon. Ces Russes-là, ils ne sont pas tous des Poutines en Russie, hein, tu le sais bien. C'est un peuple qui est pris en otage par les décisions de son gouvernement.
Ouais, mais qu'est-ce que tu veux?
Sanctionner. Alors, un athlète, quand même, quelque part, c'est un débat à prendre. C'est un débat à prendre parce que on se dit bien, j'ai entendu dans tous les débats qui se passent en ce moment, on se dit bien, est-ce qu'on va commencer aussi à renvoyer les Russes qui sont d'origine, donc qui ont un passeport russe et canadien, et leur dire rentrez chez vous? Est-ce qu'on va commencer à dire aussi aux infirmières
Non, faut pas mélanger les choses. Faut pas mélanger les choses, c'est complètement
différent. Exact. Donc, il y a un débat pareil, les gens lancent ce débat pareil dans le monde sportif en disant pourquoi on fait ça au monde du sport? Mais parce que le monde du sport, il y a énormément d'argent derrière.
C'est ça, énormément de
partenariats.
Oui.
Et donc, c'est une façon de les sanctionner au niveau financier et monétaire.
Voilà, Formule 1 a complètement coupé, enlevé son contrat avec la Russie. Mais je n'ai même pas dit suspendu. Ils ont complètement plus de Formule 1 en Russie.
Oui.
C'est fini.
Ben, regarde, je vais te montrer là qu'est-ce qui se passe au soccer. Dans la première ligue anglaise, tu sais que les oligarques russes, ils sont les bienvenus depuis quelques années. Hein.
Oui.
Le milliardaire russe de 55 ans, Roman Abramovich. Il est le propriétaire de Chelsea, la troisième meilleure équipe de la Ligue. Eh bien, il a mis en vente son club hier. Il a annoncé par communiqué. C'est intéressant ce qu'il dit. J'ai toujours mis mes décisions avec les intérêts du club à cœur. Et dans la situation actuelle, j'ai pris la décision de le vendre, même s'il ne fait pas encore l'objet de sanctions financières. Donc, l'Union européenne n'a pas encore dit qu'il gélait ses finances puis ses actions à lui. Il reste tout de même un proche de Vladimir Poutine,
oui.
C'est ça qui vient le chercher.
C'est ça.
Mmh. Et voilà, il a des photos avec lui. Hein. On rappelle qu'il a acheté ce club en 2003 pour 237 millions de dollars canadiens. Et il conclut son annonce en promettant que le produit net de la vente serait versé à une fondation caritative au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine. C'est un geste intéressant qu'il pose pareil. Hein. On voit qu'il est donc contre ça.
Qui va acheter ce club-là? Et ça coûte cher. À combien?
À ce qui paraît qu'il y a déjà les Américains, les Français qui sont dessus. Hein. Le propriétaire des Dodgers veut l'acheter. Hein. Il y a déjà beaucoup de monde. Déjà.
Ah, bon, d'accord. C'est déjà pas mal alors. Oui.
Et il a dit qu'il ne va pas le vendre à rabais pour ramasser le plus de gens et le donner aux victimes de la guerre en Ukraine. Alors, c'est un beau geste qu'il pose là. Il faut remettre à César ce qu'il lui dit.
On lui donne le crédit.
On lui donne un crédit. Là.
Ouais.
Alors, en résumé, je vais vous donner les fédérations sportives qui ont posé des gestes de sanctions. Okay? Au soccer, on a la Russie et les clubs russes exclus de toute compétition et du mondial du Qatar, donc 2022. En volleyball, l'organisation du mondial 2022 en Russie est retirée. C'est Russie cette année, hein, le mondial de volleyball. En athlétisme, exclusion des Russes et Biélorusses, y compris le championnat du monde. Basketball, équipe exclue de toute compétition. Natation, compétition annulée en Russie pour les Russes, mais athlètes autorisés. Donc les compétitions qui se passent en Russie sont annulées, mais les athlètes sont autorisés en natation, comme au tennis. Cyclisme, exclusion des équipes russes. En F1, on en a parlé, Grand Prix de Sochi annulé déjà et des partenaires retirés, les partenaires russes. En rugby, le Russie et la Biélorussie sont suspendus quand c'est les concours des nations.
Oui.
Le hockey, ça c'est intéressant. Les Russes sont interdits du mondial de la Finlande 2022. Les Russes et Biélorusses bannis de l'IHF, donc l'International Fédération de Hockey. Et la NNH, la nôtre, ici, Fulgence,
oui,
celle de l'Amérique du Nord, eh bien, il n'y a aucun geste, aucune sanction. Alors ça, c'est surprenant. Et comme je te l'ai dit, tu sais, Ovechkin, le grand capitaine de l'équipe de Washington,
oui,
à la capitale, c'est un Russe, hein, c'est le grand Russe, c'est un des grands joueurs de hockey au monde.
Donc c'est silence radio, quoi, c'est silence radio pour l'instant.
Silence radio de la LNH, ben, on sait à quoi fonctionne la LNH, Fulgence, hein. Elle fonctionne à l'argent et au gain des matchs. Alors pour eux, pour l'instant, il n'y a aucune sanction.
Okay,
ça étonne
okay,
beaucoup.
Ok, oui, ça c'est, faut pas. Bon, on va voir la suite de toutes les façons, c'est pas fini. Et puis d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui, même il y a quelques, oui, jours déjà, qu'il était en train de menacer la Suède et la Finlande si ces deux pays veulent rentrer dans l'OTAN. Poutine. Si, c'est parce que si ces deux pays font leur demande d'entrer dans l'OTAN, il les a mis en garde déjà.
Quel est son lien avec les Suédois? Ils ont le droit de demander de rentrer dans l'OTAN.
Ah, parce que c'est le pays que... C'est tout. La Finlande, je comprends, la Finlande fait frontière avec la Russie. Bon, ben, il a peur que l'OTAN soit à ses portes, c'est tout.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm.
Alors, il veut mettre la main sur tous les pays qui sont là-bas à côté de lui. Là. Non. Je te laisse terminer, s'il te plaît. Merci.
Mm-hmm. Oui. Alors, Fulgence, je vais finir sur une bonne note.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Un peu plus de 4 ans après sa retraite, le Québécois Patrice Bernier, ex-capitaine de l'Impact de Montréal,
oui,
devient un immortel du soccer canadien. En début de semaine, Canada Soccer a dévoyé les noms des 3 nouveaux intronisés à son temple de la renommée.
Okay.
Donc Patrice Bernier, la Québécoise Rianne Wilkinson, ainsi que Martina Franco pour la cuvée donc de 2022. Patrice Bernier, rappelons-le, a été vainqueur du championnat canadien 2 fois avec l'Impact de Montréal.
Oui.
Il a été sélectionné 56 fois avec l'équipe nationale, dont il a été le capitaine à 3 reprises. Intéressant. Par ailleurs, la carrière du Québécois ne s'est pas limitée juste au Canada. Au fil des années, rappelons-le, Bernier a évolué en Norvège, en Allemagne et au Danemark.
Oui.
Où il a,
oui,
d'ailleurs été double vainqueur de la Coupe du Danemark. Alors bravo Patrice Bernier.
Il connaît pas mal le championnat européen d'ailleurs.
Mmh. Oui, très bien. Alors bravo Patrice Bernier.
Merci beaucoup Myriam.
Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci beaucoup.
Ouais. Au revoir.
Au revoir.
Crois ça, l'amour à distance. Un vol de quel oiseau déjà? J'ai pas envie de prendre les absences. Moi qui ne migre pas, je suis pas trop. Aller-retour, vos souvenirs d'avoir votre époux. C'est fragile comme un pied sur le lac. Au début du printemps, paraît que l'on a seulement qu'une vie chaque. Et mon piano perd ses dents. J'entends parfois tes je t'aime au fond de la radio AM. Mais dis-moi, dis-moi, si tu restes, choisis la nuit où tu t'en iras. C'est pas loin d'une chanson de geste. Voici l'amour et c'est à qui l'aura. Ça m'arrive encore de passer mon petit chat dans la machine à toutou. Pour une poupée qui te ressemble, je la boutonne en jaloux. Moi je connais un génie qui trouve ce long tout seul dans sa lampe. Choisis la nuit où tu t'en iras. C'est pas loin d'une chanson de gestes. Voici l'amour et c'est à qui l'aura. T'en iras. C'est pas loin d'une chanson de geste. Voici l'amour. Et c'est à qui l'aura.
Oui, Patrice Michaud, à qui l'aura. Je vais parler du colorectal cancer, le cancer colorectal. Ouais, le cancer colorectal sauve 9 vies sur 10. Se fait dépister pour sauver notre vie, sa vie, voilà. Voilà, c'est le message que Cancer Colorectal Canada souhaite faire passer aux Canadiens, aux Canadiennes. Canadiennes, aux Canadiens, aux Canadiens, aux Canadiennes. Demain vendredi, il y a plusieurs monuments du Québec qui vont s'illuminer en bleu pour sensibiliser la population. Le château Frontenac, le stade olympique et la grande roue, qui seront illuminés en bleu pour la cause d'ailleurs. Donc, demain vendredi 4 mars 2022, pour marquer le début du mois de sensibilisation au cancer colorectal, plusieurs monuments des plus grandes villes du pays vont s'illuminer comme ça, bleu, pour une question de sensibilisation, maladie, et rendre hommage à tous ceux qui en sont touchés d'ailleurs. Et le château Frontenac, la tour Sienne à Toronto, les voiles de la place du Canada à Vancouver, ou encore le violon géant dans le port de Sydney, qui vont revêtir entre autres les couleurs de la maladie. Voilà. Donc, tout au long de cette journée, de demain, toute est journée tout en bleu, c'est ça. La population est également invitée à porter un vêtement bleu demain vendredi 4 mars, pour démontrer le soutien à la cause et puis à tous les patients atteints de cancer colorectal ainsi qu'à leur famille. La journée tout en bleu, c'est bien ça. Bon, on ne dit pas de bleu, il y a plusieurs sortes de bleu, hein, bleu foncé, bleu clair, bleu je ne sais quoi. Donc, c'est l'occasion de sensibiliser le grand public à la maladie et d'attirer l'attention sur le fait qu'elle continue de causer beaucoup trop de décès qui auraient pu être évités. Alors, l'organisme rappelle aux Canadiennes et aux Canadiens qu'un test de dépistage du cancer colorectal simple et non invasif peut leur sauver la vie. Donc pendant la pandémie d'ailleurs, et de nombreuses personnes ont raté le dépistage biennal. Voilà, il est essentiel qu'elle soit dépistée le plus tôt possible, donc il faut se rattraper, appeler son médecin, son spécialiste pour aller se faire dépister, ceux qui ont l'habitude de le faire. Ouais, ceux qui ne l'ont jamais fait, il faut le faire aussi. Hein. Voilà, pour éviter de trouver des cancers qui seront plus difficiles à traiter et à guérir. Précise Barry Stein, qui est le président du cancer colorectal Canada, et survivant à cette maladie-là, à ce genre de cancer. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tout le monde est concerné. Voilà. Il est souvent considéré comme un sujet tabou. Oui, alors qu'en 2021, il a tué près de 10 000 personnes au Canada. En 2021. Et classant ainsi la maladie comme le deuxième cancer le plus meurtrier chez l'homme et le troisième chez la femme. Oui. Si on le diagnostique tôt, il est évitable, il est traitable, il est guérissable. Alors si on le diagnostique tard, bon, ça vaut pas la peine, c'est déjà trop tard. Voilà. On estime en effet que 9 personnes sur 10 pourraient être sauvées si le cancer était décelé rapidement, mais c'est pas le cas. Il y a une étude américaine d'ailleurs qui a publié en ce début d'année qui montre par ailleurs que le cas de cancer colorecto chez les 20 ans et plus sont en hausse, hein, et pour des raisons encore inconnues, ils font des études encore. De plus en plus, les jeunes adultes sont confrontés à un risque accru de cancer colorectal en raison des manques de sensibilisation à la maladie. Souvent, ils ne sont pas diagnostiqués à temps, simplement en raison de leur jeune âge. Et souvent, les jeunes, oui, il est jeune, il fait du sport, il est sportif, il ne peut pas avoir ça. Bon, une maladie, c'est une maladie, ça touche tous les âges. Voilà, donc il est important que les jeunes soient conscients des signes et des symptômes de la maladie, apprennent à réduire leur risque de contracter un cancer colorectal. C'est Barry Stein qui parle toujours, hein, le président. Voilà, restez à l'écoute. Je vais revenir là-dessus, de toute façon, c'est tout le mois de mars, hein, la sensibilisation. Je reviens là-dessus. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on vous revient avec notre invité, Steve Coutu, qui va nous parler de cette série d'animation. Voilà, des Lex et les humanimaux. Dex et les humanimaux.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Llevar la meta a su fin, prometer que la veremos cumplir, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Destino enfrentar.
y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacerte sueños realidad, y puedes volar alto sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar, puedes llegar.
Ça, c'était Carlos Tirovier avec la complicité de Gloria Stefan. Ya puedes llegar. Notre invité déjà au bout du fil, il va nous parler de sa nouvelle aventure. Sa nouvelle aventure. Steve Couture, qui est producteur, président, directeur général d'Epic Story World et président de Lumi Animation. Animation, il va me corriger quand je vais lui passer le micro. C'est pour nous parler de Dex et les Humanimaux. Série d'animation jeunesse, c'est tout frais, tout nouveau depuis le 1er mars. Voilà. Alors, il va d'aventure en aventure, il vient de Frima, là, il est avec son co-associé dans cette nouvelle aventure Dex et les Humanimaux, série d'animation jeunesse. Bonjour Steve Couture, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, évidemment. C'est la semaine du lancement, donc... C'est toujours des beaux moments.
Oui, oui, oui. Je me suis dit, j'ai tenu quelque soit. J'étais en train de préparer l'émission et puis j'ai dit, non, il faut que j'aille voir au moins le premier épisode là avant de partir à l'émission quand même.
Ben oui.
11 minutes, ça passe très vite. Hein.
Ça passe vite, oui, oui.
Ça passe.
Alors, vous avez aimé ça?
Oui. J'ai adoré. Non, je vais voir tous les autres, hein, les 6 que vous avez déjà mis sur tout, ici, tout TV, là.
Oui, voilà.
Je vais tout voir. Merci beaucoup. Alors, quelle est cette nouvelle aventure, là, Steve?
Mm-hmm. Oui, alors, la série Dex et les Humanimaux, c'est une série jeunesse, évidemment, en animation, qui a été produite par Epic Story World, comme vous l'avez mentionné, et
oui.
Animée dans notre nouveau studio d'animation, Lumi Animation, qu'on a mis en place d'ailleurs durant la pandémie. Donc, c'est une nouvelle entreprise qui a un petit peu plus d'un an.
C'est ce qui fait que j'ai parlé de nouvelle aventure.
Oui, oui, exactement. C'est une nouvelle aventure aussi. Donc, on a mis en place l'entreprise vraiment donc au milieu de la pandémie. C'est pas toujours simple. Mettre en place une équipe au milieu de tout ça, avec le travail à distance et tout, c'était pas facile.
Mm-hmm.
Mais mon collègue Louis Leclerc, qui est le directeur général du studio, a géré ça de main de maître,
oui. Hein,
pour rendre ça intéressant et créer une équipe avec tout ça. Donc, et c'est notre premier projet, c'est le premier
oui.
projet qu'on lance,
oui.
Coup,
oui.
comme producteur d'un côté et comme studio d'animation.
Oui.
Donc, Dex et les Humanimaux, c'est une série de 6 fois 11 minutes, donc c'est environ une heure de contenu.
Oui.
Pour les jeunes de 7 à 11 ans, là, à peu près. Mais évidemment, plus jeunes, je pense qu'ils vont trouver ça le fun. Et même un petit peu plus vieux, je pense aussi. Et certains adultes hein, qui trouvent ça le fun aussi. Alors, c'est une série un peu avec beaucoup d'humour et qui se passe dans le futur. Donc, un futur assez lointain où les humains, les animaux, il y a une espèce de de mix de la génétique qui s'est passée où on vit dans un monde des humanimaux. Alors, c'est des créatures transgéniques qui ont donc des humains, qui ont des certaines fonctionnalités.
Oui,
des capacités
oui.
Animales.
Mais, mais pourquoi, pourquoi en 3D, Steve? Pourquoi pas, pourquoi en 2D? Pourquoi pas 3D?
En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le premier élément important, c'est un aspect éditorial.
Oui.
Les séries en animation 2D souvent sont perçues comme des séries qui s'adressent des fois à un public un petit peu plus vieux. Souvent les mangas, les séries japonaises. Donc, le 2D un peu classique.
Oui.
Souvent, les enfants ou ben, les jeunes vont avoir l'impression que ce type de série-là s'adresse à un public, parfois à un public jeunesse, mais parfois un peu plus vieux.
Oui.
Et la 2D, quand on a un budget qui est restreint,
oui,
on est capable de raconter des belles histoires, et la 2D ne va pas perdre de son lustre avec le temps.
Non, moi, j'ai rien remarqué. Je n'ai même pas remarqué que j'étais en train de regarder animation 2D. Hein.
Oui. Oui, oui, exactement, de l'animation 2D. Mm. Alors, on revoit encore aujourd'hui les vieilles séries d'il y a 30 ans, durant Ciné-Cadeau, on voit encore les vieux Tintin.
Oui.
Et l'animation, elle a vieilli un peu là, dans le cas de ces vieux programmes-là.
Oui.
Mais ça reste que, en général, l'animation 2D vieillit un peu moins. Donc, c'est des contenus qu'on est capable de présenter pendant des années, même des décennies, puis on ne sentira pas un effet du vieillissement de la technologie.
C'est ça.
En 3D, malheureusement, quand on regarde les vieux films en 3D, même qui avaient des très gros budgets, aujourd'hui, on voit la différence quand même beaucoup avec ce qui est existant aujourd'hui. Donc, la 3D va perdre son lustre un peu plus rapidement.
Oh, elle va disparaître à un moment donné, quoi.
Ouais. Et puis, en fait, donc nous, ayant un budget quand même restreint, on ne pouvait pas faire une série en 3D là, qui aurait été de très grande qualité pour justement rivaliser un peu avec les grands films qu'on voit et tout ça. Donc, on a fait le choix d'aller vers la 2D.
Oui.
Et comme je disais, au niveau éditorial, la 2D, le type de personnage un peu humanoïde qu'on a, ça rappelle un peu les mangas. Les jeunes écoutent énormément de séries mangas sur les plateformes de streaming, mais même chez certains diffuseurs canadiens qui en diffusent un peu. Et ça a beaucoup de succès. Comme je disais, souvent, les enfants, quand ils voient ce look-là un peu 2D, ils ont l'impression d'une histoire peut-être plus élaborée, un petit peu plus profonde.
Oui, oui.
Alors, c'est comme ça qu'on a orienté tout ça.
Comment vous avez réussi à convaincre Radio-Canada?
Ah ben, en fait...
Est-ce que vous avez déjà collaboré avec eux, avec d'autres projets?
Oui, en fait, dans ma carrière, bon, vous avez mentionné tout à l'heure que j'étais chez Frima avant, j'étais président et un des fondateurs de Frima. On a travaillé avec Radio-Canada à plusieurs moments.
Oui.
Par contre, je n'avais jamais produit une série avec Radio-Canada.
Mais ça veut dire que le terrain était déjà défriché, quoi.
Ben,
quelque part.
Je pense que bon, il y avait une relation existante.
Mais, oui.
Quand on fait du contenu, les diffuseurs sont tellement inondés de demandes de producteurs et de créateurs que ils ont l'embarras du choix quand même. Donc, il faut les convaincre. Moi, c'est pas. J'ai proposé d'autres projets qui n'ont pas passé avec Radio-Canada.
Oui.
Toujours dans un processus où on doit un peu les convaincre. Ou encore, il faut juste arriver au bon moment avec le bon type de contenu.
Bon, c'est ça.
Je pense que ce qui a convaincu Radio-Canada, c'est ce qui m'a convaincu aussi d'embarquer là-dedans. Moi, je suis pas le créateur de la série.
Oui. On va en parler. On va en parler.
Mm-hmm. Ouais, alors. Moi, en fait, ce que je voyais de cette série-là, c'est que c'est une série qu'on pouvait, qui pouvait être assez, avoir une certaine profondeur dans l'histoire. On est loin dans le futur, il y a les humanimaux, ça crée une quantité, un potentiel de personnages et d'histoires qui est très, très grand. Et c'est donc, ça pourrait être une série qu'on pourrait tirer sur plusieurs saisons. Et c'est une histoire aussi qu'on appelle feuilletonnante. Donc, ce n'est pas des épisodes fermés. Souvent, dans les contenus jeunesse, ce sont des épisodes fermés. Donc, chaque épisode, c'est comme un petit film de quelques minutes, finalement. Dès que c'est des humanimaux, il va y avoir un arc narratif à chaque saison, ou à chaque demi-saison parfois, et tout ça. Mais ça va toujours être des épisodes qui vont suivre.
Oui.
À la fin d'un épisode, ben, souvent, il y a une situation qui se passe, puis ça va continuer dans l'épisode suivant.
Oui.
Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché pour ces catégories d'âge-là. D'habitude, on est beaucoup plus dans des épisodes fermés. Donc, comme on avait une profondeur, on est capable de décliner cette histoire-là sur toutes sortes de façons. On a des personnages qui sont super attachants et tout. Moi, c'est comme ça que j'ai embarqué là-dedans. Puis j'ai senti que Radio-Canada voyait un peu la même chose que moi là-dedans.
Génial.
Donc, c'est un peu ça.
Ouais. OK. On fait une petite pause musicale. Et puis, on va revenir pour parler un peu de la collaboration avec votre associé, Ken Fire, et puis, comment dirais-je, le créateur Raymond Boisvert et Paul Scorita. Comment vous les avez rencontrés? Comment est-ce que vous, comment ils ont arrivé à vous séduire pour pouvoir vous jeter à l'eau avec eux en même temps, quoi? Non, non, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu, et sincèrement, je vais d'ailleurs la suite. Il faut que je finisse de regarder avant que vous ne mettiez les autres séries là. Allez, à tout de suite Steve, on écoute une pièce musicale et puis on vous revient.
C'est bon.
Merci.
Quand la terre se fendit, c'était sous le règne des bandits qui avaient tout défiguré. Chaque ville entourée par son cortège de hangars, ses parkings alignés. Les autoroutes étaient pleines de camions en file indienne, de convois bloqués au péage. On se parlait presque pas et chacun pressait le pas, son écran au ras du visage. Le pays d'à côté est couvert de nuages. On séparait par croyance les leçons d'autodéfense, les rues interdites d'entrée. La fumée ou le brouillard, impossible de savoir, chaque soir plus épais. On noyait dans du plastique des repas automatiques que la mer rejetait sur les plages. Braves gens dignitaires, tout le monde laissait faire par profit ou manque de courage. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Sous les pieds bousculés des moutons qui s'affolent, le berger à genoux qui cherche la boussole, et les loups affamés qui attendent au grillage. Tombé juste au milieu de la cour d'une école, l'arc-en-ciel démonté qui traîne sur le sol, et tout le monde croit à des enfantillages. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Couvert de nuages. Quand la terre se fendit, c'était sous le règne des bandits qui avaient bien prévu le coup. Bien tirer la couverture, profiter de la nature, disparu on ne sait où. Sous les casques et les enceintes, des télés jamais éteintes tournaient le même message. Pardon de le répéter, mais y a pas lieu de s'inquiéter. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Y a pas lieu de s'inquiéter, c'est le pays d'à côté. Le pays d'à côté qui est couvert de nuages.
Francis Cabrel, le pays d'à côté. Oui, très imagé, vous pouvez penser ou bien mettre en quelque part où vous voulez, que ce soit en Ukraine. Voilà, le pays d'à côté est couvert de nuages avec les bombardements, ou bien quelque part d'autre, comme vous voulez. Voilà, on a notre invité qui est toujours avec nous, Steve Couture, qui est le producteur et président directeur général d'Epic Story World et président de Looney Animation. C'est pour parler de Dex. Dex, moi, j'aime bien sa tête. Et les humanimaux. C'est pas les animaux, c'est pas les humains, mais c'est les humanimaux. Voilà. C'est une série d'animation jeunesse. Peut-être que je suis resté jeune encore dans ma tête, là. Je sais pas, mais j'aime ça. Le peu que j'ai vu, là, mais je veux voir la suite aussi. Alors, comme je disais, Steve, avant la petite pause musicale, comment se fait la rencontre avec Raymond Boisvert et
oui.
Le créateur, alors, et les deux créateurs, et Paul Scotia? Ouais.
Oui, en fait, Raymond Boisvert, c'est un homme d'affaires qui est de Québec que je connaissais, qui était impliqué dans différents projets et que je connaissais depuis quelques années.
Oui.
Et donc, il est venu me voir avec son projet. Il m'a présenté un projet et puis bon, il savait que je voulais m'orienter un petit peu plus vers la production de contenu linéaire.
Oui.
Et il m'a invité à luncher, il m'a présenté son projet des humanimaux. Par contre, c'était pas tout à fait le projet qu'on a aujourd'hui. Et c'était une histoire qui était très sombre. Lui, il a voulu un peu, il s'intéressait à l'écriture un peu pour la télévision, pour le cinéma.
Ah bon, d'accord.
Et, donc, il a écrit un scénario, mais vraiment d'un film. Mais c'est très sombre, c'était vraiment pour adultes. Puis je rigole souvent en disant, ben, tout le monde mourait à la fin, donc c'est pas pour moi, là. Donc moi, je veux faire du contenu jeunesse. Mm-hmm. Et c'était vraiment beaucoup plus sombre. Et j'ai dit à Raymond, ben, que c'était pas vraiment ce que je cherchais.
Oui.
Mais il a gardé quand même, il a gardé la foi, disons, que j'allais embarquer dans son projet. Il m'a représenté par la suite une version un peu qui avait travaillé avec l'auteur Paul Stoïka.
Oui.
Et qui s'adressait à un public un peu plus jeune. Et c'est là que je suis un peu tombé en amour avec cet univers-là.
Wow.
À l'époque, il n'y avait pas les mêmes personnages. C'était pas tout à fait la même chose. Mm-hmm. Mais ça reste qu'on avait un univers qui était très riche.
Oui.
Qui nous permettait toutes sortes de choses. Et un univers fantastique.
Après la rencontre, il a compris que Steve voulait aller du côté beaucoup plus jeunesse, quoi. Mm-hmm.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Moi, mon intérêt était de faire une production jeunesse.
Oui.
Évidemment, faire un film, moi, je suis pas dans le domaine du cinéma, et un film pour adultes de cette envergure-là, en science-fiction,
oui.
Eh bien là, on parle pas d'une petite production, de toute façon, pour aller sur le marché international.
Oui.
Parce que, bon, en télévision, on est plus dans... On a la capacité en animation, quand on s'adresse à la jeunesse, de pouvoir faire montrer à l'écran... un univers aussi éclaté et coloré que celui-là.
Oui.
Et c'est pour ça que moi, je le voyais un petit peu plus du côté jeunesse en animation.
Et la collaboration avec votre associé, ça se passe bien avec...
Oui, Ken Fair.
Oui, Ken Fair.
Oui, Ken est un ami aussi de longue date,
ouais.
Que je croisais dans les événements, dans le domaine de la télévision.
Oui.
Et j'ai toujours une super bonne connexion avec lui. Quand j'ai quitté Frima, donc je suis allé le rencontrer, puis lui, il était dans une grande compagnie canadienne du côté canadien-anglais en production. Donc, c'est un gars qui est à Toronto. Et je suis allé le rencontrer, je suis allé discuter avec lui. On a toujours eu des affinités sur le type de production jeunesse qu'on voulait faire et le genre d'univers, justement, de Dex et les humanimaux. Et je suis allé luncher avec lui. Moi, ça se passe souvent dans les lunchs, finalement, mes histoires.
Oui.
Alors, je suis allé luncher avec Ken, et puis... Ken, essentiellement, il allait quitter son rôle dans l'organisation où il était. Et il me disait, ben, on devrait se lancer en affaires. On va faire de belles choses ensemble. On pourrait faire des marques jeunesse qu'on pourrait exporter partout sur la planète.
Mm-hmm.
Et on se disait, il y a certainement de la place actuellement pour faire une grande marque jeunesse qu'on pourrait amener partout sur la planète, mais décliner aussi en jeux vidéo, en jouets ou en livres. Donc, d'en faire vraiment, non pas que du contenu linéaire, pas juste du contenu télé, mais bien en faire une marque qui va t'amener sur plusieurs verticales.
Oui.
Et c'est un intérêt commun qu'on a. Et puis, ben, c'est comme ça. On est parti, on s'est lancé. Et en fait, nous, on n'est pas les créateurs des séries ou des projets généralement. Alors, actuellement, on a une trentaine de projets en développement avec des créateurs de partout sur la planète. Et on a levé la main, on a dit, ben oui, on prend des projets, on veut travailler avec des créateurs comme Raymond Boisvert,
oui.
sur Dex. Mm-hmm. Et on a commencé à développer plusieurs projets. On en a 6 ou 7 actuellement en production,
mm-hmm.
dans des studios d'animation. Un prochain projet qui s'en vient, qui est en production actuellement chez Looney Animation.
Oui.
Donc, un projet de zombie, un projet très humoristique, un truc très drôle. Et donc, c'est en fabrication chez Looney. On travaille avec d'autres partenaires ailleurs en animation. Donc, les choses, ça avance très vite. Donc, Ken est un gars très expérimenté dans le secteur.
Bravo, et, bravo à vous et à toute l'équipe. Alors,
merci,
moi,
merci
c'est vraiment... Non, c'est tellement... Moi, le petit garçon-là, il est tellement attachant. Dex, il est le personnage. Tout de suite, dès le premier épisode-là, bon, il y a les cinq autres que je dois voir, mais oui. Je le trouve, il a été créé en laboratoire avec des capacités de transformation extraordinaires et puis, et pouvant passer d'un humain animal. C'est-à-dire d'un humain animal, quoi. C'est pas un être humain, c'est pas un animal. Alors, il nous reste une minute là pour finir la conversation. Quel est le message? Est-ce que vous êtes satisfait du lancement qui a eu lieu le 1er mars?
Ben oui, c'est super bien. En fait, on a pu se réunir au cinéma Le Clap pour visionner avec l'équipe de fabrication, aussi avec des journalistes et plusieurs amis aussi. Et c'est la première journée, en fait, c'est le 28 lundi, ou le 28 février, lundi.
Oui.
C'est la première journée où on pouvait se rassembler dans une salle de cinéma remplie à pleine capacité.
Oui.
Donc, il y avait beaucoup de monde. C'était le fun de voir tous ces gens-là ensemble visionner nos contenus.
Oui.
Tout le monde est enchanté. La musique de À la claire ensemble est très rythmée, ce qu'on a choisi. Ça a eu beaucoup de succès.
Oui.
Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme. Comme vous, en fait, les gens, les adultes qui ont écouté ça sont très enthousiastes.
Oui, moi j'aime ça, oui. Hein, le petit garçon, là, je le trouve très attachant. Et puis, c'est un voyou. Il taquine beaucoup le gros monsieur la Kéran, ou bien je ne sais quoi, là.
Oui, exactement. Et puis, ça marche bien. Ça fonctionne bien. On a des beaux personnages forts. On a une belle diversité aussi de personnages dans tout ça.
Oui.
Et donc, c'est un beau contenu. Je pense que c'est un contenu intelligent aussi avec une certaine profondeur pour les enfants.
Oui.
Et je pense que les enfants aujourd'hui, ils sont prêts à ça. Ils sont prêts à écouter des contenus plus élaborés.
C'est ça. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe, à tous ceux qui ont participé à ce gros projet-là qui continue d'ailleurs. Je te dis, c'est de grandes ambitions quand même pour Dex et puis les humanimaux. Hein. Alors, allez-y sur tout, ici, tout.tv, allez-y là-bas. Les premiers épisodes sont là-bas, de 11 minutes. C'est facile à regarder, c'est pas des trucs de une heure de temps, c'est les 6 épisodes ensemble qui font une heure de temps. Voilà. Donc, allez-y profiter. Et puis, bon, ben, la nouvelle compagnie de Steve Couture et ses collègues vont pas arrêter de nous surprendre. Merci à vous, Steve Couture.
Et merci à vous.
Et au plaisir de vous reparler pour d'autres pleins projets dont vous venez de nous parler. Soufflez un peu comme ça. Merci. Et bon vent à vous.
Merci.
Au revoir.
Rock my boat,
don't rock my boat,
'cause I don't want my boat to be rocking.
Don't rock my boat.
Oh please, don't you rock my boat.
Don't
no,
rock
no.
my boat,
'cause I don't want my boat to be rocking.
Don't rock my
I'm
boat.
I'm telling you that,
then we bend a new bond.
Et voilà, c'était Bob Marley, Satisfy My Soul. Merci à Myriam Larache qui est venue nous parler du sport. Et merci à notre invité, Steve Coutu, producteur, président, directeur général d'Epic Story World et président de Looney Animation, qui nous parle de la série d'animation jeunesse qui est sur ici tout.tv, Dex et les Humanimaux. Voilà, des humains et des animaux en même temps, des Humanimaux. Voilà, merci à toi Nicolas, et merci à nos fidèles auditeurs, et puis on les retrouve demain à la même heure sur les ondes du canal. Bonne fin de semaine à toi et on se retrouve le lundi. Et je vous dis ciao.